Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont pertinentes, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Bien mal, nous parlons à présent des biens mal acquis. Que dit la loi à ce sujet? Quelles sont les sanctions? Justine Mouéou, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Kachama.
Vous êtes magistrat au parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe. Nous savons que le phénomène nouveau riche, et on en parle de plus en plus en République démocratique du Congo. En peu de temps, une personne peut amasser une fortune et un important patrimoine composé notamment des immeubles, voitures, des luxe et autres. Et d'après nos sources, certains amassent des richesses que leurs revenus ne peuvent justifier. Alors, quelles sont les dispositions légales concernant les biens mal acquis?
Oui, merci pour la question. Les dispositions légales sont multiples. Tout dépend de la manière dont on a pu acquérir ces biens. Il est vrai que par rapport aux biens mal acquis, vous pouvez vous rappeler que, à titre élémentaire et simple, lorsqu'on veut parler de l'acquisition d'un bien, le bien peut s'acquérir d'une façon à titre onéreux ou à titre gratuit. Il est vrai que par rapport à l'acquisition de biens, une personne peut acquérir un bien, il peut recevoir un don, ça ne poserait pas de problème. Mais les dons, si j'entre dans, je commence par les dons, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir à titre gratuit. Quelqu'un vous fait une donation. La donation, de par le législateur, va considérer ça comme étant un contrat qui est unilatéral. Hein, parce que c'est de la volonté de la personne qui veut faire le don. Mais il arrive que les dons là soient révoqués. Et les dons n'est révocable que lorsqu'il est d'origine frauduleuse. Lorsqu'il est constaté que les biens ayant fait l'objet d'un don est d'origine frauduleuse, on peut révoquer ces dons-là. Parce que les dons, lorsqu'on doit les faire, son origine ne doit pas être une origine frauduleuse. Là, nous sommes peut-être en matière civile par rapport à l'acquisition d'un bien. Mais il est vrai qu'en matière pénale, là, c'est que le législateur voulait acquérir un bien. Vous ne pouvez l'acquérir, soit vous avez acheté ce bien-là, et pour l'acheter, je suppose que vous avez fait des économies qui peuvent justifier l'acquisition de ce bien. Parce que c'est comme ça que, sous votre cieux, toute acquisition, par exemple pour les fonctionnaires, même pour les travailleurs, ça se fait par crédit. Si on a instauré le système de crédit, c'est pour dire que les revenus de quelqu'un, tant qu'il est fait au préalable, qu'il est épargné, il ne peut pas être en mesure, un matin qu'il se réveille comme ça, vous le trouvez, il a acquis un bien qui ne correspond pas à ses moyens financiers par rapport à ses prestations ou les services qu'il rend. C'est pour dire que le bien qui est mal acquis, donc son origine au départ, c'est une origine qui est frauduleuse. C'est pour ça qu'on appelle ça le bien mal acquis. Il vous souviendra aussi que on a eu même à mettre sur pied, lors de la conférence nationale souveraine, toute une commission qui a parlé des biens mal acquis. Et vous connaissez la suite, comment cette commission s'est soldée lorsqu'on voulait vendre des bois cantachés. Mais quand cela ne tienne, mais lorsque nous revenons avec l'entrée de la peine, vous vous souviendrez aussi qu'on a créé un office des biens mal acquis. Si cet office avait été créé, l'objectif c'était lequel? L'objectif était de permettre à ce que tous les biens qui revenaient à l'État, que les gens ont pu acquérir d'une manière frauduleuse, soit par bénéfice de certains documents, ou soit en obtenant de faux papiers qui pouvaient convaincre les conservateurs à établir des titres à leur au bénéfice de ces derniers, on a créé cette commission de biens mal acquis pour que tous les biens qui revenaient à l'État congolais puissent rentrer dans son patrimoine. Parce que vous devez savoir aussi que les biens de l'État sont hors commerce, ceux qui entrent dans le domaine public de l'État, sont hors commerce et ne peuvent pas faire l'objet de quelconque transaction. Il faut que ça rentre dans le domaine privé. Alors, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui ont acquis les biens de l'État d'une manière frauduleuse, et il fallait que cette commission puisse mener de, saisir la justice pour que, par des décisions judiciaires, que ces biens reviennent dans les patrimoines de l'État.
Est-ce que cette commission avait réellement fait son travail jusqu'au bout?
Je ne pense pas que cette commission ait fait son travail jusqu'au bout, parce que les gens qui ont mis à gérer cette commission, nombreux se sont livrés à la gestion de ces choses-là. Ils ont préféré gérer les biens qui étaient considérés comme les biens qui ont été mal acquis par les bénéficiaires. Et on finit par décret du Premier ministre, il vous souviendra que l'OBMA a été liquidé. L'OBMA a été liquidé et à ce jour ici, c'est votre droit, vous les journalistes, de chercher à savoir les biens qui ont fait l'objet de la liquidation, étaient les biens de l'État ou étaient les biens des particuliers.
Alors,
c'est une préoccupation que vous devez, à votre niveau, mener comme enquête.
Alors, monsieur Jusqu'à Moyou. Alors, quand on parle des biens mal acquis, il s'agit seulement des biens qui l'acquisition des biens appartenant à l'État?
Non, il peut s'agir, c'est vrai que j'étais en train de parler avec vous, par rapport au concept bien mal acquis. Bien mal acquis, on a toujours, on a l'idée déjà d'emblée qu'il s'agit par exemple de biens de l'État que vous avez mal acquis.
Oui.
Donc les mots bien mal acquis, justement dire l'acquisition est d'origine frauduleuse, donc vous n'avez pas mérité d'acquérir ce bien-là.
Oui.
Mais vous l'avez mal acquis, il est entré dans votre patrimoine d'une manière frauduleuse, n'est-ce pas? Alors, si nous essayons d'évoluer en prenant les dispositions légales par rapport à l'acquisition de biens, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui commet un détournement de deniers publics ou privés, n'est-ce pas? Au terme de l'article 145 du code pénal libre de tel que modifié à ce jour, on peut le poursuivre pour détournement. Il peut avoir été comptable de l'État dans l'exercice de ses fonctions, il détourne l'argent de l'État et il se fait construire des immeubles où il arrive à acquérir ou acheter, parce qu'il ne peut que acheter. Mais lorsque nous analysons l'acquisition par lui par rapport à son revenu mensuel, nous disons ce bien ici, il a mal acquis ce bien. Donc cela veut dire l'origine de ce bien-là, ou même l'argent ayant servi à l'achat de ce bien, c'est l'origine de cet argent ou du bien, et c'est une origine frauduleuse. Alors on dira qu'il a mal acquis ce bien. Alors c'est question maintenant de chercher à savoir qu'est-ce qu'il a eu à poser comme acte pour acquérir ce bien. Ça peut être un voleur, n'est-ce pas?
Oui.
Un voleur peut cambrioler une banque, lorsqu'il a fini de cambrioler une banque, il se retire et il achète, avec le fruit du vol, il s'achète une maison. Cette maison-là est considérée comme un bien mal acquis.
Bien.
À la fois, oui, est considérée comme un bien mal acquis.
Un bien mal acquis, bien entendu. On va poursuivre tout à l'heure le temps d'accueillir Gabriel Betou, qui nous appelle des Kalima, dans la province du Maniema. Vous voulez également participer, composez le 081-890-63-94, le standard est déjà ouvert.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bien mal acquis, que dit la loi à ce sujet, quelles sont les sanctions? Alors, Gabriel, vous êtes à Kalima et Candela, on nous appelle les Kisangani. Gabriel, bonjour.
Bonjour, M. Jésus Daniel Kachama, et bonjour aussi à notre éditeur, et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Bien, Gabriel.
J'ai une préoccupation à poser à notre invité.
Oui.
Moi, j'ai déjà vu la personne qui tue son patron pour que lui s'en approprie avec tous les biens du patron, et la maison, ainsi que toutes les entreprises. Maintenant, quand l'État découvre une telle personne, quelle sanction qu'on peut lui attribuer?
Donc une personne qui tue son patron pour hériter, récupérer tous ses biens.
Oui, oui.
Merci Gabriel pour cette question. Candela, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour Radio Kati.
On vous écoute.
Et à Kisangani, ce n'est pas des champs militaires. On ne parle que ce ne sont pas les champs de militaires auparavant, parce que nous avons tous, par exemple, les champs fermes. On nous a dit que c'était pour le personnel de TP et aménagement du territoire. Il y a un cas ici à Kisangani qu'on appelle le camp 6G, parce pour l'entreprise de Saint-Zabamboli.
Oui.
Il y a un cas qu'on appelle cas au Nastra, c'est pour le personnel de l'Ontario Nastra.
Oui.
Maintenant, dans ce cas, si vous arrivez, vous avez qu'il y a des ministères civils qui habitent dans ce même cas. On peut classer ça dans quelle catégorie? C'est une usurpation, c'est une violation, c'est une. Je ne sais pas, c'est à demander à l'invité de nous préciser vraiment si dans ce cas, de cette situation, on peut les classer où.
Bien, merci. Justement, vous avez suivi ces deux auditeurs, Gabriel de Kalima qui nous dit qu'il connaît un cas, quelqu'un qui a tué son patron pour récupérer tous ses biens. Alors si on découvre ces faits, quelles sont les sanctions réservées à cette personne?
Oui, d'ailleurs, d'emblée, lorsqu'il dit qu'il a tué, donc ici vous pouvez vous dire que nous pouvons retenir soit d'abord comme fait infractionnel. On peut, en suivant l'auditeur, nous fondant sur la question de l'auditeur, quelqu'un qui tue de cette manière-là doit avoir prémédité l'acte, n'est-ce pas? S'il a prémédité l'acte, parce que l'objectif pour lui, c'est d'acquérir le bien du patron. Donc, il doit avoir prémédité sa mort, que nous pouvons considérer comme un assassinat. Donc, il sera non seulement poursuivi d'abord pour l'infraction d'assassinat, parce qu'il a tué, et l'objectif par lui pour celui de acquérir le bien. Mais si on arrive à établir que lui a tué, c'est pour acquérir ce bien-là, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que le bien qu'il a acquis là-bas, le fait qu'il sera condamné pour assassinat, on ne peut pas aussi lui accorder les bénéfices de ce bien. Parce que bien là, on considère que ça a été le motif, bien que le motif en droit pénal est inopérant. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un tue quelqu'un pour acquérir le bien, nous, ce que nous poursuivons l'infraction là d'assassinat, à moins que par la suite, parce qu'il peut tuer, pour arriver à entrer en possession de ce bien, il faut peut-être que si le bien était couvert de titres, il faut que lui se fasse délivrer de faux titres. Et vous allez comprendre que lorsque quelqu'un se fait délivrer de faux titres de propriété, pour faire qu'il commet une infraction de faux, n'est-ce pas? Et cette infraction de faux est aussi réprimable. C'est pour ça que je dis tout est fonction de la manière dont vous avez pu acquérir ce bien. Et si vous tuez, et par la suite, vous allez vous faire. Vous allez vous faire délivrer des titres en rapport avec le bien de la personne décédée, soit en établissant un testament disant que tous les biens, et on vous a légué ces biens là-bas. Si on arrive à établir que l'origine de ce testament-là n'est qu'une origine frauduleuse, retenez qu'on va vous poursuivre pour faux en écriture.
Bien, et Candela de Kisangani, il parle de certains camps qui sont occupés aujourd'hui par les militaires, mais qui appartenaient au personnel de TP, de l'ONATRA, tout ça. Alors, il veut évidemment des qualités.
Oui, il va avoir certaines précisions. Oui, voilà. Ça, c'est un problème que nous retrouvons dans notre État ici. Et il vous souviendra aussi que, pour l'auditeur, il y a une manière pour l'État congolais, il y a le fait que nous appelons l'expropriation. Je ne sais pas si il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique. L'État peut arriver à prendre certaines décisions pour cause d'utilité publique, l'État peut exproprier. N'est-ce pas?
Oui.
Ça peut être un cas qui pouvait se dire qu'il revenait à l'ONATRA, mais pour cause d'utilité publique, c'est parce qu'il y a par exemple le ministère qu'on a envoyé, ils ne savent pas où être logé, on peut pour cause d'utilité publique expropier ce temps-là qui revenait à l'ONATRA, et surtout que l'ONATRA, à l'époque, c'était une entreprise publique, où vous savez que l'État a toujours la même mesure des entreprises publiques, on peut expropier et on loge le ministère. Cela ne pose pas de problème. Ce qui a pu poser des problèmes, ça vous allez aussi le constater, qu'il y a certains camps militaires ou qui revenaient à l'ONEL. Vous allez constater même ici à Kinshasa. Et ces camps militaires, l'ONEL, celui qui me disait c'est le liquidateur de l'ONEL, a procédé à la vente en tant que liquidateur. Et or, le défunt président Mobutu, lorsqu'il a liquidé l'ONEL, L'ordonnance qui liquidait l'ONEL est claire et il dit que tous les biens immobiliers et tous les biens immeubles qui revenaient à l'ONEL étaient donnés à l'État congolais. Donc aujourd'hui, la liquidation ne pouvait que concerner les petits litiges qui restaient par rapport aux personnes qui avaient souscrit au crédit ONEL. Mais on ne pouvait pas se permettre dans la liquidation de pouvoir vendre, vous connaissez des camps ici, même ici, etc., qui ont été vendus, qui ont été morcelés.
Morcelés, bien sûr.
Et en complicité parfois avec certaines autorités militaires, ainsi de suite.
Bien,
voilà, ça, ce sont des cas qu'il faut dénoncer et qui peuvent être considérés comme tout simplement la violation de la loi.
Bien. Oui, nous avons une autre question. On va y revenir tout à l'heure. Le temps d'accueillir Shadrach Nabina qui nous appelle de Mbandaka. Bonjour. Shadrach, bonjour. Shadrach, vous êtes en Mbandaka, bonjour. Bien.
Bonjour, M. Joly, bonjour à notre invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui.
J'ai deux questions pour notre invité.
Oui, allez-y rapidement, Shadrach.
Bon, j'aimerais savoir, avec le phénomène bien mal acquis, vous allez voir une personne qui a détourné le bien public et la loi lui inflige la peine. On lui met dans les cachots deux ou trois jours. Vous voyez cette personne trouver une liberté, soit c'est à partir de qui on ne sait pas, et il se passe librement à ses occupations. Ou bien, quelqu'un qui détourne publiquement le bien de l'État ou bien le bien de la nation, mais il n'est pas sanctionné. La loi ne dit rien contre lui, soit disant il a l'immunité sur lui ou bien il est le membre de la famille et une autorité politico-administrative de notre pays. Alors je ne sais pas qu'est-ce que l'invité peut dire à partir de ces deux questions.
Merci Shadrach de Mbandaka. Christian, vous êtes à Bukama, dans la province du Katanga. Bonjour.
Oh, bonjour, c'est Christian de la radio Monaco de Bukama. En fait, j'aimerais demander à notre intervenant si le bien mal acquis est d'une façon frauduleuse des biens de l'État, par exemple, de la famille. En fait, que direz-vous d'une parcelle familiale vendue par 4 personnes dont cette parcelle est constituée par 5 personnes et la dernière qui est restée seule est une femme? Alors, direz-vous que ce patrimoine est un bien mal acquis par l'acheteur?
Merci à Christian de la radio Monaco. Alors, justement.
Oui, je commence par les derniers intervenants. J'ai bien suivi, et ça, c'est le cas, sont toujours les gens ici. Vous savez, un bien successoral, hein, un bien qui entre dans le patrimoine de la succession, c'est un bien qui appartient à tous les héritiers. Donc, c'est un bien que les héritiers ont en copropriété. Donc, la vente d'un tel bien est supposée être faite avec le consentement de tous les héritiers. N'est-ce pas? Alors, lorsque un des héritiers n'a pas consenti à cette vente, la conséquence, c'est quoi? Il y a deux possibilités. Le vendeur, l'héritier qui n'a pas consenti à la vente, peut par voie civile, il peut saisir un tribunal et obtenir l'annulation de l'acte de vente. L'annulation de la vente. Et prouver tout simplement qu'il n'a jamais consenti à ça. Tout comme il peut saisir les parquets pour stéréonat à charge de ceux-là qui ont vendu un bien qu'ils avaient en copropriété sans le consentement de l'autre. N'est-ce pas? Et la conséquence, c'est que les vendeurs seront sanctionnés ou poursuivis pour ces lieux-là parce qu'ils avaient l'obligation de requérir le consentement de l'autre.
Mais la sœur, à ce moment-là, est-ce que c'est...
Non, la sœur, celui qui paye, il y a un principe en droit, hein, que celui qui achète mal achète doublement. Tels sont les principes que les gens doivent savoir. Avant d'acheter, je vous ai dit, avant d'acheter quelque chose, avant d'acquérir quelque chose, vous devez vous rassurer de l'origine de la chose. Et lorsque vous êtes rassuré de l'origine de la chose, il y a votre bonne foi qui peut être présumée.
Donc à ce moment-là, on peut parler...
L'acheteur de bonne foi, il est différent de l'acheteur de mauvaise foi.
Alors, on peut dire que l'acheteur a acquis, c'est un bien mal acquis.
Oui, nous disons qu'il a mal acquis ce bien là-bas. La conséquence, c'est que la vente peut être annulée. À moins qu'il ait prouvé qu'il ignorait. Et alors, la bonne foi ne se présume pas, ça se prouve. Il faut prouver que vous étiez en train d'ignorer que c'était un bien successoral. Mais quand vous savez que ceux qui vous vendent ne sont pas des propriétaires, c'est comme les escrocs. Quelqu'un peut escroquer, quelqu'un peut se faire établir des titres sur un bien et puis il le vend. Hein. Les cas sont les gens ici. Vous pouvez constater qu'il y a des gens que les gens ont pu, les maisons de l'État que les gens ont pu acquérir Hein? Oui. Parce qu'il était colonel, les maisons de dotation, mm. hein, qui sont dans le patrimoine de l'urbanisme et habitat.
Il y a même Sadrak Mbandaka qui nous parle de certaines personnes qui ont acquis des maisons. On les arrête oui. aujourd'hui.
Nous regrettons à détourner. Mm. Vous savez que lorsque vous avez détourné les deniers publics, en dehors de la sanction pénale, il y a la confiscation. N'est-ce pas? Et à l'époque, cette loi, je crois, elle a été abrogée. Il était prévu que la confiscation soit une confiscation générale. Et les biens que vous avez acquis avant et les biens que vous avez acquis même après. Et on pouvait même poursuivre même les biens que vous pouvez donner aux héritiers, ainsi de suite, parce que on supposait que quand vous avez détourné, quelqu'un qui détourne ne mettra pas toujours tout à son nom.
C'est même le nom de ses enfants.
C'est vrai que vous voyez que la sanction, quand on vous poursuit pour détournement de deniers publics ou privés, il y a une sanction complémentaire qui est la confiscation.
Il y a la confiscation et l'emprisonnement.
La confiscation, à l'époque, elle était générale.
Oui.
Maintenant, on parle d'une confiscation spéciale, mais que ce soit même pour les vols, que ce soit pour les escroqueries. Quand vous avez escroqué, on doit aller juste ordonner la restitution des biens escroqués. Quand vous avez commis les espionnages, on va vous demander, on va vous condamner aussi à la restitution des biens ayant fait l'objet de l'infraction. Tout bien qui a fait l'objet de l'infraction doit être restitué à son auteur.
Voilà.
Et les jugements pénaux doivent les dire. Alors, c'est pour cela que nous disons. Il faudrait qu'on puisse renforcer. Le législateur doit aussi renforcer les mécanismes tels que la confiscation, là, en ce qui concerne le cinéma des deniers publics, que cette confiscation-là et cette portée-là générale par rapport au fait que...
On s'arrête à la confiscation, c'est la seule sanction qu'on réserve à une personne qui a...
Non, mais celui qui détourne, il a déjà 20 ans de servitude pénale.
20 ans de servitude pénale.
Oui, alors il ne peut même pas bénéficier de la liberté provisoire.
Voilà.
Parce que les malheurs chez nous ici, c'est cette liberté provisoire qu'on est en train de. Qu'on a toujours supposé que c'est un droit. Ce n'est pas un droit, c'est une faveur.
Il
revient au magistrat de pouvoir apprécier pourquoi vous accordez cette liberté provisoire. Mmh. Et lorsque quelqu'un a déjà détourné, pensez-vous que lorsque vous lui accordez la liberté provisoire, il va acheter la caution qu'il doit payer, et même si vous lui demandez n'importe quel montant de la caution. Et la caution qu'il doit payer, ça doit être. Aura t elle origine? Ça sera qu'une caution qui provient du bien détourné. C'est un comptable qui a détourné le salaire de fonctionnaire.
Oui.
Et vous l'arrêtez, vous lui demandez de payer la caution. Il va payer avec quoi? Il va payer avec l'argent des fruits de l'infraction.
Oui.
C'est pour cela que dans certains cas, et initié d'ailleurs même pour certaines personnes, hein, bon, je ne sais pas avant d'arracher ce qui s'est passé, mais il est de mon avis que la liberté provisoire doit être accordée à cette personne-là et la personne doit être condamnée au maximum de la peine.
Bien. Un auditeur en ligne depuis Mbandaka, pardon, depuis Kananga, Victor Ingopa, bonjour. Victor, vous êtes en ligne, bonjour. Désolé, il n'est plus en ligne. Alors, lorsque une personne a des biens mal acquis, des immeubles, tout ça, alors qui peut porter plainte à ce moment-là?
Oui, cela veut dire quoi?
Qui est habilité, je veux dire, à pouvoir mener une action?
Oui, c'est ce que j'ai dit, tout est fonction de ce qui a été, de la manière dont vous avez pu acquérir. Si vous avez pris un bien qui appartient à une personne physique ou à une personne morale, les personnes habilitées à pouvoir engager une action judiciaire, toute victime, toute personne ayant intéressée,
mm-hmm.
la chose peut déposer plainte. Il peut dénoncer même l'organe de la loi que nous sommes, le ministère public, que peut vous poursuivre. C'est pour cela que nous sommes en train toujours de vouloir demander. Et ça, c'est une exigence de la loi. Il faudrait que chaque fois qu'il y a même des remises et reprises par rapport aux personnes qui ont eu à assumer des fonctions de l'État,
oui.
ou qui ont eu à engager l'État, qu'on puisse procéder à l'audit. De sorte que lorsqu'on procède à l'audit, les rapports de l'audit est aussi transmis aux autorités judiciaires.
Mais à la prise de fonction, généralement, les autorités déclarent leur patrimoine, leurs biens. Mais
ça c'est vrai, on déclare, vous suivez les différentes remises et reprises qui se font sur base de signataires, on ne déclare même pas les patrimoines, on n'inventorie même pas les patrimoines du ministère. Hein, parce que le patrimoine, il y a des biens, il y a des, par exemple des laptops, il y a des matériels qu'on dote comme ça, mais lorsqu'il y a remise et reprise, les gens se contentent à poser leur signature, mais il n'y a pas d'audit. Il faut toujours qu'il y ait l'audit, même après, on doit auditer avant que l'autre n'entre en fonction. Parce que les rapports de l'audit peuvent permettre à ce que lorsque la copie est envoyée aux autorités judiciaires, à partir de ces rapports de l'audit, on peut ouvrir un dossier à charge de cette personne-là. Parce que le rapport de l'audit viendra établir sa responsabilité par rapport à la gestion de la société.
Bien, un auditeur en ligne, c'est l'ingénieur, il s'agit de l'ingénieur Mangoyo, il nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
En vous écoutant.
Merci. Moi, j'ai deux préoccupations que je voudrais partager avec votre invité. La première, il a parlé de l'État, du patrimoine de l'État, notamment des entreprises publiques à l'époque, où l'État, par exemple l'ex-Sonatra, l'État pouvait décider de l'expropriation pour affecter le patrimoine à autre chose. Bon, moi je voudrais poser une question. Prenons le cas de la FPT, donc ex-OCPT, qui à travers le pays a vu son patrimoine meuble envahi par les militaires, les policiers, tout ça. Je voudrais poser la même question. Quelle est la procédure? Est-ce que l'État peut décider comme ça, se réveille le matin, dit bon, tel bâtiment qui appartenait à telle société, on va l'affecter à la police, ou quelle est la procédure à suivre? Parce que maintenant, la SPT se plaint de son patrimoine meuble qui est pratiquement spolié par les gens. Mais quelle est la procédure? On se réveille le matin comme ça et puis on décide. Ça, c'est un. De deux, le procureur général. Parce qu'on dit souvent que le procureur doit aussi doit rechercher les infractions. Alors, pourquoi le procureur, souvent, il n'y a pas de réaction, tout ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? J'aimerais pas que notre invité nous réponde.
Bien. Merci, ingénieur. Monsieur Gisèle, bonjour.
Oui, je remercie d'abord l'auditeur. Je comprends que l'auditeur est en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Il est vrai qu'il y a toute une procédure pour expropier. Vous savez que l'autorité numéro 1, qui a les pouvoirs étatiques, c'est le président de la République. D'ailleurs, toutes ces choses-là se font toujours par voie. Hein, c'est le président de la République qui est le premier, qu'on peut appeler les patrons de l'administration. Donc, lorsque l'État doit, c'est lui qui représente l'État dans une nation. Donc, s'il doit le faire, si c'est une procédure d'expropriation, j'ai expliqué à notre auditeur qui avait posé la question que je ne sais pas de quelle manière les militaires ont pu occuper ces lieux. Mais s'il s'agit de l'expropriation, c'est prévu par la loi. Pour cause d'utilité publique, l'État. Et l'État ici est représenté par une autorité, le numéro 1 qui représente l'État.
Mais généralement, l'occupation se fait sans suivre la procédure.
C'est ce que j'ai dit. Normal. Une occupation se fait sans suivre la procédure. Il vous souviendra, parce qu'on parle des bâtiments, vous vous souviendrez ici à Kinshasa, il m'a dit, là où actuellement il y a une alimentation, il y avait les services spéciaux de la police. Et ces services sont partis. N'est-ce pas? Donc, il peut arriver que lorsque les gens abandonnent leurs biens, hein, que ces biens là-bas, le temps que l'État puisse vérifier, l'État pouvait mettre ce service. Ça, c'est, si c'est fait d'une manière anarchique, les autorités de l'OCPT, hein, ils peuvent aujourd'hui saisir la justice. Ici, ils n'ont jamais fait. Vous savez,
on va terminer par ici.
Je vais répondre par rapport au dernier intervenant.
Oui, à la deuxième question.
Vous imaginez un peu, quand on parle de Mbiza Télécom, on parle de ceci partout là-bas. Il y avait quoi? Il y avait des antennes de communication, non? Alors comment on a loti ces terrains-là? Et si on veut loti, ce sont les mêmes autorités de l'entreprise concernée qui commencent par créer les lotissements au motif que nous donnons à nos travailleurs. Vous allez aller ici, quand vous circulez, même dans les bâtiments de la poste là, il est envahi. Même quand vous allez à certains endroits ici, vous trouvez que les biens de la poste sont envahis, mais ceux qui occupent, ce sont les mêmes agents qui ont même signé des contrats avec des privés qui sont en train d'occuper les lieux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la dénonciation doit être faite. Lorsque elle est faite, l'appareil judiciaire est censé être mis à mouvement.
Alors, il a parlé aussi du procureur.
Nous demandons à faire la question concernée par ce cas-là. Oui.
Monsieur Gislain, rapidement, il a parlé du procureur. Il dit que le procureur est censé rechercher les infractions, mais il a l'impression que ce n'est pas le cas.
Bon, s'il a l'impression que ce n'est pas le cas, je ne saurais pas non plus aussi dire avec précision que ce cas a été porté. Mais si le cas n'a jamais été porté à la disposition du procureur général, selon les ressorts, parce qu'en face du procureur général, hein, je suppose que le bien peut être à la Bombay, dans les ressorts de la Bombay ou dans les ressorts de Macété. Donc, nous allons nous permettre, si ces cas-là ne sont pas encore connus, que la justice puisse, l'action publique soit mise en mouvement. C'est normal.
Voilà.
Mais ces infractions, c'est notre devoir.
Voilà.
Nous devons rechercher les infractions. Et je pense que peut-être lui n'est pas informé, mais si il est vrai que ces faits ont été portés à la connaissance de la justice, même par simple lettre, tout citoyen peut dénoncer. Quand vous dénoncez, on doit nécessairement ouvrir. Même si on n'ouvre pas directement un dossier RSP, on ouvrira néanmoins un dossier, un registre d'informations. Pour requérir les informations.
Okay.
Voilà, nous demandons à ceux-là qui peuvent dénoncer tous les cas de biens mal acquis, et non qu'à les faire. Parce que la dénonciation n'est pas exclue comme voie pour saisir la justice.
Justement, vous, magistrat au parquet des grandes instances de la Gombe. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.
Thank you.